Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour, c'est Zoé de Louis. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la chance de travailler pour Louis Média et que vous entendez ma voix sur vos podcasts préférés. Travailler pour quelque chose qui a du sens pour moi, c'est essentiel à mon épanouissement au quotidien. Et vous, comment se passe votre relation au travail? C'est plutôt épanouissant et enthousiasmant ou plutôt boule au ventre et démotivation? Si vous êtes dans le deuxième cas et que vous comptez chaque semaine le nombre de jours qui vous séparent du week-end ou des prochaines vacances, je vous recommande plus que jamais le parcours Chance, partenaire d'émotion. Chance est une communauté d'entraide professionnelle pour aider chacun et chacune à trouver sa place dans le monde du travail. La communauté Chance a une méthode unique qui a fait ses preuves. La première étape, c'est celle du bilan de compétences. En 3 mois seulement, vous allez pouvoir redéfinir vos objectifs pro et renouer avec ce qui vous anime vraiment, avec l'aide d'un coach professionnel qui vous sera dédié. La deuxième étape, c'est celle du passage à l'action. Une fois votre projet défini, toute la communauté Chance sera à vos côtés pour donner vie à votre projet. Un collectif hyper engagé, prêt à vous épauler et à vous ouvrir son réseau. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous rendre directement sur le site chance.co pour faire le point gratuitement avec un conseiller et changer ce qui ne va pas ou plus dans votre vie pro. Bonne écoute.
Louis.
Il y a une scène du film Mon Roi de Mai Wen à laquelle je pense souvent. Le personnage de Tony, interprété par Emmanuel Berco, intègre un centre de rééducation suite à une blessure au genou. Lors de l'entretien prévu avec la psychologue, cette dernière questionne Tony sur les raisons profondes de son accident. Elle lui demande « Vous pouvez me prononcer le mot « genou » lentement, s'il vous plaît ?» Tony s'exécute et la psychologue répète après elle
« Je, nous.
Ouais, » D'accord, mais si je vous avais dit « épaule », vous m'auriez dit quoi ?
Ça marche pas à tous les coups, mais je vais vous lire quelque chose et vous me direz ce que vous en pensez. Le genou signifie la capacité à lâcher, à céder et voire à reculer, car c'est une articulation qui ne peut se plier que vers l'arrière. Et lorsque nous avons mal au genou, on peut imaginer que nous avons la difficulté à accepter un événement de notre vie et la guérison passe aussi par ce chemin psychologique.
Lorsque j'ai vu Mon Roi au cinéma, les gens dans le public ont ri à cette scène. Moi aussi. D'ailleurs, lorsque la psychologue articule « je, nous », le personnage de Tony lui renvoie un sourire moqueur. Comme si faire un lien entre son accident et la peine amoureuse était un peu grotesque. Car oui, on trouve souvent ridicule ce genre d'association. Mais pour autant, nous sommes nombreux et nombreuses à quand même chercher des raisons émotionnelles à nos douleurs physiques. L'exemple le plus courant est d'avoir littéralement mal au dos, lorsqu'on en a plein le dos, ou bien des difficultés respiratoires quand quelque chose nous pèse sur le cœur. Et justement, qu'en est-il du cœur? Est-ce qu'un grand chagrin peut réellement nous briser le cœur, comme dans l'expression? Eh bien, il semblerait que oui. Et dans cet épisode, la journaliste Capucine Jaffé nous explique comment. Elle se demande si le cœur ne serait pas le siège de nos émotions. Et pour répondre à cette question, elle enquête sur la maladie cardiaque Takotsubo, aussi appelé syndrome du cœur brisé. Peut-on mourir de chagrin ? Je suis Brune Bottero, bienvenue dans Émotion.
En 1982, Barney Clark reçoit le premier cœur artificiel de l'histoire. À ce moment-là, ce dentiste américain souffre d'une grave insuffisance cardiaque. Sans cette opération, il est condamné. Il passe 7h30 au bloc opératoire et ressort avec un cœur en aluminium et polyuréthane dans la poitrine, relié à un gros compresseur à roulettes. Son entourage s'inquiète alors de voir cet homme contraint de vivre relié à une machine de 180 kg. Barney Clark meurt finalement 112 jours après l'intervention. Avant cette opération expérimentale et risquée, sa femme aurait demandé au médecin si son mari serait encore capable de l'aimer. Le cœur recouvre une symbolique si forte que nous sommes amenés à croire qu'il est la source de notre affection et de nos passions. Dans l'imaginaire collectif, le cœur est indissociable des sentiments et des émotions. Et ça, c'est le résultat de notre héritage culturel. Dans l'Antiquité, bien avant de comprendre que notre cœur est une pompe qui rejette du sang via nos artères pour oxygéner notre corps, les philosophes confèrent déjà à cet organe des dimensions symboliques. Dans les parties des animaux, Aristote considère le cœur comme le siège de notre intériorité. Il est aussi celui de nos sentiments, de l'amour, si bien que ce cœur, cet émoji que l'on s'envoie machinalement par SMS pour exprimer un sentiment d'affection, est aujourd'hui devenu un symbole universel. Ce cœur symbolique et symbolisé est si présent dans le domaine culturel qu'il en devient presque ordinaire. On pense par exemple au t-shirt I Love New York ou à tout le champ lexical qui existe autour du cœur pour décliner ses sentiments. Si on prend le temps d'examiner les expressions de la langue française, on se rend compte qu'elles renvoient à une multitude d'émotions. Avoir le cœur lourd, le cœur léger, le cœur sur la main, mettre du cœur à l'ouvrage, avoir le cœur bien accroché, faire quelque chose à contre-cœur, et j'en passe. Aujourd'hui, on est bien conscient que l'organe du cœur n'est pas le siège des émotions. Ce n'est pas parce que je vais recevoir une transplantation cardiaque, et donc un autre cœur, que cela aura un impact sur mes goûts et ma sensibilité. La science nous a appris que nos émotions sont régies par le cerveau et que tout se passe avant tout dans notre tête. Alors je me suis demandé, pourquoi nos émotions rejaillissent-elles dans notre corps et surtout dans notre cœur ? Pourquoi l'être humain a-t-il toujours fait le lien entre le cœur et nos émotions ? Et a-t-on eu raison de faire de cet organe le siège de nos sentiments ? Aujourd'hui, on sait que nos émotions naissent avant tout dans notre cerveau. Et pourtant, il existe des cas où la peur, le stress, la passion viennent se loger dans notre cœur, au point parfois de le briser. Je me rappelle avoir lu plusieurs articles sur ce sujet au moment de la mort de Carrie Fisher, l'actrice qu'on connaît pour avoir interprété le rôle de la princesse Leia dans la saga Star Wars. Ce qui m'avait marqué à l'époque, c'est la mort successive de Carrie Fisher, puis celle de sa mère, la comédienne Debbie Reynolds. Debbie Reynolds est décédée un jour après sa fille. Avant de mourir, elle aurait dit « Je veux être avec Carrie ». Comme si la disparition de sa fille lui avait littéralement brisé le cœur. Comme si elle était morte de chagrin. Mais alors peut-on vraiment mourir de chagrin ? Peut-on succomber à un choc émotionnel ?
Je pense que mon esprit et mon cœur étaient tellement sidérés. Enfin, ton cœur se brise en fait, hein, c'est la maladie du cœur brisé. Je suis cassée en fait. C'est ce que je ressens à ce moment-là.
Sabrina a 41 ans. Il y a une dizaine d'années, elle a vécu un choc émotionnel qui a eu de graves conséquences sur sa santé. J'ai rencontré Sabrina chez elle, à Hazebrouck, dans le nord de la France. Au-dessus du canapé où nous sommes assises, il y a une série de photos de la famille.
Bonjour, Capucine, enchantée.
Jean-François.
J'ai entendu parler de vous.
Jean-François, son mari, Sabrina et ses deux filles prennent la pose. Sur l'une des photos, les quatre membres de la famille sont allongés les uns sur les autres. Ils sourient tous, ils ont l'air heureux. Une image qui m'apparaît être l'illustration parfaite de cette famille très soudée. La femme qui se trouve en face de moi a traversé deux accidents cardiaques. Le premier s'est déclenché suite à l'hospitalisation de sa sœur Sylvie.
J'avais un lien particulier avec Sylvie dans le sens où, si tu veux, elle connaissait tout de moi en fait. Elle connaissait tout de moi et je connaissais tout d'elle.
Sylvie, c'est l'aînée de la fratrie de quatre sœurs.
Toutes les quatre, on forme un carré en fait. Hein. On est indissociables et à la fois éloignés. Tu comprends ce que je veux dire ? On est obligé d'être ensemble pour former un carré, mais à la fois éloigné parce que bah, c'est des sœurs, on se taquine, on se dispute et on s'aime autant l'une que l'autre. Mais avec Sylvie, on a une ressemblance physique assez marquée. Pourtant, on a 6 ans de différence. On est enceinte en même temps. On est marraine du bébé de l'une et de l'autre. Et on va en vacances ensemble, on mange ensemble le midi, on passe nos week-ends ensemble. Si tu parles de Sylvie, tu parles de Sabrina, mais tu parles des quatre en fait.
Le 16 mai 2010, Sabrina se retrouve en famille pour fêter la communion de sa nièce. Ce jour-là, sa sœur Sylvie fait une crise cardiaque.
On doit être une petite soixantaine, je pense, ce jour-là, à faire la fête, faire la queue-le-le. On mange tous ensemble, on s'amuse, on danse sur Stromae. C'était l'année où Stromae a sorti « Alors on danse ». Et je vois encore ma sœur appuyée sur mes épaules. Je me retourne en me disant « Dis donc, t'étais bien appuyée sur moi quand même. Lâche un petit peu de mou. » Et quelques heures après, il me semble sur le coup de 17h, je demande à ma mère où est Sylvie, parce qu'il y a un petit moment que je ne l'ai pas vue. Et ma maman me dit que Sylvie avait des douleurs au niveau de l'estomac, que c'est certainement la vésicule, et qu'elle est partie aux urgences. J'étais même pas inquiète, même plutôt soulagée en me disant, si c'est la vésicule, elle va se trouver à l'hôpital au moment où elle fait une crise, ça sera plus facile pour eux de voir des cailloux, s'il y a des cailloux dans la vésicule, tout ça, quoi. Donc je suis pas plus inquiète que ça à ce moment-là, en fait. On rentre à la maison pour doucher et coucher les enfants, qui ont donc 8 ans et 4 ans à l'époque, qui ont l'école le lendemain. Et c'est là que Jean-François, mon mari, vient dans la chambre parce qu'il a reçu un appel de ma maman lui demandant de l'accompagner à l'hôpital pour y rejoindre mes deux sœurs qui y sont déjà, du reste de la fratrie, parce que Sylvie, son cœur s'est arrêté. Voilà la phrase que Jean-François m'a dit avant de partir. Et là, tout implose.
La sœur de Sabrina a fait un infarctus. Concrètement, une artère se bouche et empêche le sang de circuler. Le cœur a du mal à se contracter, son rythme est troublé et si rien n'est fait, il s'arrête.
Sylvie a attendu très 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 longtemps en salle d'attente. Son cœur a lâché une première fois. Ils ont relancé son cœur, il a lâché une seconde fois. Ils ont su relancer le cœur et l'intuber à ce moment-là. Et elle a été transférée à Lille, à l'hôpital cœur-poumon. Le neurologue à cœur-poumon nous dit de reprendre notre vie classique, vu que Sylvie a été plongée dans un coma artificiel, et branchée sous un cœur artificiel et sous respirateur. De reprendre notre vie classique, qu'elle peut sortir du coma dans 3 jours, comme dans 3 mois, comme dans 3 ans.
Malgré sa peine, Sabrina reprend le chemin du travail. Elle est vendeuse en Belgique.
J'ouvre le magasin à 7 heures et vers 11 heures, j'ai des fourmis dans le bras gauche. Je me dis, t'as pas dormi, t'as fumé, t'es très fatiguée, ça doit être ça. J'ai des fourmillements dans la mâchoire à gauche et j'ai beaucoup de mal à articuler en fait. Je me dis que je symptomatise ce que Sylvie a eu, que c'est pas cardiaque du tout. Mon mari vient me chercher au boulot, m'amène aux urgences d'Hazebrouck, où Sylvie a été reçue 3 jours avant et où notre ressemblance est donc frappante. Et j'ai une prise en charge à ce moment-là, tout de suite, de l'équipe médicale qui, je pense, 3 jours avant, ont été aussi éprouvées que nous. Et je pars en hélicoptère sur l'île et là, je fais un takotsubo.
Cette maladie que l'on appelle aussi syndrome des cœurs brisés est en réalité une déformation du cœur. Elle s'opère après un stress ou un choc émotionnel, comme la perte d'un proche. Il faut pouvoir imaginer notre cœur comme une pêche coupée en deux, composée de chaque côté d'une oreillette et d'un ventricule. Le ventricule gauche permet de renvoyer le sang oxygéné dans l'organisme. Suite à un stress aigu, ce ventricule se gonfle et se ballonne. Il prend la forme d'une amphore bien particulière, le takotsubo, qui signifie piège à poulpe en japonais. Si cette maladie cardiaque porte le nom d'un vase japonais, c'est parce que c'est là-bas qu'elle a été décrite pour la première fois dans les années 90.
Le takotsubo, c'est une sorte d'infarctus, mais ce n'est pas un infarctus.
Nicolas Mansancal est le chef du service de cardiologie de l'hôpital Ambroise Paré à Boulogne-Billancourt.
Quand on fait un infarctus du myocarde, on a une artère coronaire qui est bouchée. Du coup, on a cette douleur thoracique, on a une nécrose myocardique, il y a une urgence vitale, il faut déboucher l'artère coronaire le plus rapidement possible. Le takotsubo, c'est la même présentation clinique avec la même douleur thoracique, des modifications à l'électrocardiogramme, mais par contre, les coronaires sont saines et c'est une sidération du muscle cardiaque, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une partie du cœur qui ne se contracte plus. Le takotsubo touche préférentiellement le ventricule gauche, et donc on a cet aspect caricatural de vase de pêche traditionnel japonais, mais on peut avoir, dans 20 à 30% des cas, également une atteinte du ventricule droit associée. Donc on a une atteinte biventriculaire, mais le diagnostic se fait essentiellement sur le ventricule gauche.
Suite au diagnostic de son takotsubo, Sabrina se retrouve en soins intensifs de cardiologie au CHU de Lille. Elle est prise en charge dans le même hôpital et le même service que sa sœur Sylvie.
Dans ma tête, ça tournait en boucle qu'elle était 2-3 chambres au-dessus de moi et que c'était fait pour qu'on soit pas loin l'une de l'autre, qu'elle a besoin de moi, donc que je dois être là, en fait. Que cet événement-là a été fait pour que je ne sois pas loin. C'est ce que moi, je pense, moi. C'est du plus profond de moi. Après, au niveau, si on se pose et qu'on parle au niveau médical, je pense que mon esprit et mon cœur étaient tellement sidérés. Enfin, ton cœur se brise, en fait. Hein, c'est la maladie du cœur brisé. Je suis cassée, en fait. C'est ce que je ressens à ce moment-là.
Le cœur de Sabrina a donc pris la forme d'un piège à poulpe. Et ce qui a entraîné la déformation de son cœur, c'est un pic de stress. L'anxiété et la nervosité provoquent une décharge de catécholamines. Ces hormones accélèrent le rythme cardiaque et augmentent la pression artérielle. Le stress, ça correspond à un ensemble de réactions psychiques et physiologiques de notre organisme en réponse à une agression subie, à une pression ou à une situation inhabituelle. Dans le cas de Sabrina, cette situation inhabituelle, c'était l'hospitalisation de sa sœur Sylvie. En fait, le stress, la peur et l'angoisse de Sabrina lui ont déformé le cœur.
On a soit le stress émotionnel, on a plusieurs classiques, ce qui est notamment l'annonce du décès d'un conjoint, l'annonce d'une maladie, mais on peut avoir des stress également physiques, on peut se faire cambrioler, avoir une agression qui va précipiter ce Takotsubo. Et enfin, dans 20 à 30% des cas, on a un stress, entre guillemets, médical, soit lié à une maladie aiguë, c'est qui peut être une crise d'asthme, quelque chose comme ça, ou autrement également un examen. C'est-à-dire que la personne va être tellement stressée à faire un examen qu'elle va déclencher un Takotsubo. Ça, ce sont les formes classiques des facteurs déclenchants de Takotsubo. Ce sont des facteurs aigus, mais parfois, on peut avoir une accumulation de petits stress. C'est-à-dire que ça peut être un stress professionnel et c'est comme une sorte de marmite où il y a la pression qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et il suffit ensuite d'une goutte d'eau pour faire déborder le vase.
Dans certains cas, le Takotsubo peut être déclenché suite à un événement joyeux. Comme si finalement notre corps, notre cœur, n'était pas capable de supporter un trop-plein émotionnel quel qu'il soit.
Quand le Takotsubo surgit, les gens sentent qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est une sorte de déflagration, et c'est après coup qu'ils peuvent élaborer et qu'ils arrivent à comprendre que c'est en lien avec un stress.
Christine Lefin est psychologue clinicienne au sein du service de cardiologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
L'intérêt aussi de ce syndrome, c'est que c'est la question de l'élaboration du traumatisme. Dans le traumatisme, il y a une effraction qui est d'abord, qui peut être une effraction ou psychique ou somatique, c'est-à-dire où il y a un débordement, il y a un trop-plein. Que soit le cerveau ne peut pas gérer, ou le corps, et ensuite, c'est là qu'il y a l'accident qui surgit, en fait.
Si certains organes de notre corps peuvent subir les dommages des émotions vécues, c'est bien dans notre cerveau qu'elles jaillissent avant tout. Certaines zones cérébrales sont d'ailleurs essentielles pour activer telle ou telle émotion, comme l'amygdale. L'amygdale, c'est une structure en forme d'amande nichée au cœur du cerveau qui permet d'identifier et de réagir à des émotions comme le stress ou la peur.
Il y a une réponse qui est biologique au trop-plein. Elle est à la fois psychique et biologique. D'un point de vue biologique, il y a tout un lien entre l'hippocampe et l'amygdale qui sont deux régions du cerveau qui font qu'elles communiquent entre elles. Et quand il y a un choc, quel que soit le traumatisme extérieur, un trop-plein, il y a une de ces deux parties qui se sidère et qui finalement emprisonne les affects ressentis. C'est-à-dire que pour supporter l'événement, l'individu se coupe totalement de ses sensations.
Pour se défendre face au stress, le cerveau va sécréter des hormones comme les catécholamines. Ces hormones contribuent à augmenter la pression artérielle et la fréquence cardiaque. C'est ce qui entraîne un accident comme le Takotsubo. En fait, le cœur ne peut plus se contracter et se déforme. Une situation de stress intense peut donc rejaillir sur notre cœur, car c'est un organe très sensible aux émotions.
Me vient en tête une expression symbolique, avoir le cœur qui bat la chamade. La chamade, c'est le roulement de tambour pendant la guerre, qui annonçait la reddition des troupes, c'est-à-dire le retrait. Et donc là, est-ce que le cœur capitule ? Est-ce qu'il a décidé de se rendre dans ces moments-là ? Ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que le cœur, bien avant notre naissance, déjà nous parle
Il y a tout un apprentissage autour des bruits du cœur. Notre cœur, finalement, il nous parle assez tôt. On l'écoute. Il faut écouter son cœur, au propre comme au figuré. On est vraiment en lien, en permanence, avec les bruits de notre cœur, et finalement très tôt. Et on se structure avec ça. C'est ça qui nous met en sécurité ou en insécurité. Et donc, on apprend aussi aux patients à davantage écouter leur cœur et à s'écouter, dans le bon sens du terme.
Notre cœur serait un peu comme la boussole de nos émotions. Par exemple, lorsque l'on est attiré par quelqu'un, notre cœur bat plus fort, il est en émoi. Et nous avons appris à assimiler cette sensation cardiaque à cette émotion amoureuse. En fait, nous nous construisons avec les bruits de notre cœur dès le plus jeune âge.
Tout ce qui est affectif s'étaye sur les sensations corporelles, et ce, dès les premiers jours. Je m'explique. Toutes nos sensations, toutes nos pulsions, on va, au final, les apprivoiser et les intégrer peu à peu, au fil de notre existence. Mais dès l'origine, nous sommes une sorte de monde pulsionnel que l'on ne peut pas identifier, puisqu'on n'a pas la parole, et que l'on dépend totalement de son environnement. Et au fil des interactions, des réponses que l'environnement va donner à toutes ces sensations, les sensations vont finir par prendre sens. Et avec la parole, peu à peu, pouvoir être représentées et dites. Et on s'aperçoit dans la prise en charge de ces patients qui font un Takotsubo que les sensations, tout ce qui est du registre des affects n'a pas forcément été mis en mots, pas forcément symbolisé, et tout reste finalement du registre de la sensation et n'est pas exprimé.
En fait, Christine Lefin explique que les victimes du Takotsubo n'arrivent pas à verbaliser toutes leurs sensations. C'est un peu comme si le lien entre psychisme et cœur était rompu.
Au bout d'un moment, quand il y a un trop-plein, ça ne peut plus rester à l'intérieur. On ne peut pas rester que sensation, on ne peut pas rester que souffrance psychique. Il y a un moment où il faut que ça sorte. Toute notre sensorialité, tout ce qui est le point de départ de notre existence, finalement façonne notre psychisme. Et dans la question du cœur, qui est quand même le siège, et ça depuis l'Antiquité quand même, des émotions, on s'aperçoit que là, il y a un lien entre ces patients qui peuvent arriver avec une souffrance psychique non dite, font un événement cardiaque qui va parler justement d'un événement psychique antérieur. C'est vraiment lié à un stress. Donc moi, j'ai vraiment le souhait de mettre en lien et ce stress physique, somatique et psychique.
Du fait de notre héritage culturel, le cœur est indissociable des sentiments et des émotions.
Il y a 3000 ans, les Égyptiens avaient déjà une symbolique du cœur extrêmement développée et pour eux, c'était déjà le siège à la fois des sentiments, de l'intériorité et de la passion amoureuse.
Nicolas Verneau est historien.
Ensuite, si vous prenez chez les Hébreux, le cœur est plutôt le siège de la réflexion. Alors, c'est le siège de l'intériorité. On dit que Dieu sonde les cœurs, mais c'est plutôt le siège de l'intellect et de la réflexion.
Dans le cadre de sa thèse, Le cœur en Franche-Comté à l'époque moderne, Nicolas Verneau s'est intéressé à l'iconographie et à la symbolique du cœur dans l'histoire.
Les Grecs, vous avez un débat pour savoir si le cœur est le siège de l'âme ou pas. Et puis, chez les Romains, on a un certain intérêt pour le cœur amoureux. Mais c'est pas encore extrêmement investi. On le verra plus tard. Le cœur véritablement amoureux, notre symbolique du cœur, c'est vraiment une construction médiévale. Même si les racines sont antiques, c'est vraiment au Moyen-Âge que le cœur symbolique tel que nous le connaissons aujourd'hui se met en place. Alors, il faut quand même mentionner la figure du père de l'Église, saint Augustin, qui lui, en quelque sorte, réalise une sorte de synthèse entre les différentes traditions, la tradition biblique, je dirais même les traditions bibliques, puisque déjà dans la Bible, vous avez le cœur comme siège de l'intériorité, mais vous avez aussi le siège comme cœur des sentiments, et puis, peu à peu, et ça c'est quelque chose que saint Augustin va développer, le cœur comme siège de l'expérience mystique, et une expérience mystique totale, je dirais corps et âme. Donc véritablement, pour saint Augustin, le cœur, c'est l'organe qui permet d'entrer en communication avec Dieu. Et ça, c'est quelque chose que l'Église va beaucoup développer au Moyen-Âge, mais plus encore à l'époque moderne, parce qu'il va s'agir... Enfin, l'Église va chercher à contrôler les cœurs. Contrôler les cœurs, c'est s'assurer que les croyants respectent les grands principes de la moralité.
À travers l'histoire et les cultures, la symbolique du cœur évolue. C'est au Moyen-Âge que cet organe sanguinolent devient le symbole de l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que même si les symboliques attribuées au cœur sont plurielles, elles sont très souvent liées à la vie et aux émotions vécues.
Depuis très très longtemps et dans beaucoup de cultures, toutes je ne sais pas, mais en tous les cas beaucoup, le cœur n'est pas considéré comme un organe comme les autres. D'abord, c'est quand même l'organe qui marque la vie, c'est-à-dire que quand le cœur s'arrête, c'est que vous êtes mort. Même si aujourd'hui la médecine vous dira que c'est lorsque vous avez la mort cérébrale que vraiment... Mais enfin, bon, en tous les cas, pendant des millénaires, on a considéré que ce qui marquait le début et la fin de la vie, c'est le battement du cœur. Ensuite, le cœur est un organe qui fascine parce qu'on ne le voit pas alors qu'on le sent en permanence. Et donc, je pense qu'intuitivement, depuis très très longtemps, on en a fait le symbole de l'intériorité, d'autant qu'on observe assez facilement que son rythme se modifie en fonction des émotions qu'on ressent. Donc il y a un lien intime depuis très longtemps entre ce qu'on ressent, ce qu'on perçoit et cet organe qu'on ne voit pas, mais qui, dont le rythme se modifie à l'intérieur du corps. Et donc à partir de là, il n'est pas étonnant que dans quand même la plupart des cultures, on se soit interrogé, sinon sur la fonction anatomique précise du cœur, en tous les cas sur son rôle et son lien avec la vie. Mais même si le cœur est une pompe, on est des êtres de culture et donc il y a en permanence des va-et-vient entre ce qu'on ressent, les mots qu'on met sur ce qu'on ressent, et puis le corps lui-même qui ne vit pas une vie autonome. On est en interaction permanente entre ce qu'on ressent et notre organisme. Donc il y a vraiment des liens et je trouve que la symbolique du cœur exprime justement ça. C'est-à-dire le cœur est à la fois un organe, quelque chose de... C'est une pompe, d'accord, mais il est tellement investi culturellement qu'il y a des interactions entre le corps anatomique et le cœur psychique, finalement, que d'autres ont appelé l'âme ou l'esprit ou que sais-je encore.
À l'époque médiévale, le don du cœur est déjà un thème récurrent de l'amour courtois. Dans l'offrande du cœur, une tapisserie du XVe siècle qui se trouve au musée du Louvre, un chevalier s'avance dans un décor bucolique vers sa promise et lui offre un petit cœur qu'il tient du bout des doigts. Ce cœur qu'il lui tend est l'une des premières représentations métaphoriques qui associe l'amour à notre organe vital. Dans un contexte moins romantique, on se souvient de la méchante belle-mère de Blanche-Neige qui avait demandé au chasseur d'arracher le cœur de sa belle-fille, comme si le cœur condensait toutes nos qualités. Ici, en l'occurrence, la beauté, la jeunesse, la capacité à être empathique, à aimer, ce dont est incapable la marâtre dans Blanche-Neige. Aujourd'hui, on est bien conscient que l'organe du cœur n'est pas le siège des émotions. Mais avec la maladie du Takotsubo, on comprend que les émotions peuvent nous abîmer le cœur. Comme si cet organe vital était finalement le réceptacle de nos sentiments.
Bah peut-être que justement, le Takotsubo, c'est quelque chose, c'est le corps qui parle pour qu'enfin, on prenne conscience d'une réalité qu'on ne veut pas voir.
Danielle a fait un Takotsubo suite à ce qu'elle appelle un chagrin de travail.
Moi, mon seul stress, c'était mon boulot. Mon heure de transport sur la ligne 13, mes conditions de travail, les mille et une petites violences ordinaires. Enfin, j'avais l'impression d'être infantilisée, mon travail était saccagé. Il y avait une espèce de mépris, d'absence de reconnaissance. Et en même temps, j'étais quelqu'un de très responsable, de très autonome. C'est d'ailleurs pour ça qu'il m'avait prise. Mais bon, c'était assez compliqué, c'est assez ambivalent et paradoxal.
À l'époque, Danielle est journaliste spécialiste des questions de psychologie dans un journal féminin. Le Takotsubo a été le révélateur d'une situation latente, son mal-être au travail. Les petites violences quotidiennes, le manque de reconnaissance et le stress se sont accumulés pour finalement briser le cœur de Danielle. C'est arrivé un jour suite à une altercation avec une collègue.
Je suis dans mon bureau, je trouve qu'il fait froid, donc je demande à... une fille qui est dans le même bureau que moi, ça t'ennuie pas si je mets un peu de chauffage ? Ah, ne me parle pas, j'ai du boulot ! Ah, je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend ? Je veux plus t'entendre parler ! Et donc, je suis pétrifiée, je me dis, mais qu'est-ce qui lui prend ? Et elle me... Et elle, je lui dis, mais qu'est-ce qui te prend ? Elle répond pas, et elle plonge, voilà. c'est rien, c'est anecdotique. Et j'ai été tellement sidérée au sens physique du terme par ce qui s'était passé, par l'incident qui venait de se produire, que j'ai commencé à me sentir hyper mal physiquement. J'ai eu chaud, j'ai eu froid, je tremblais, je frissonnais, je voulais surtout rien donner à voir. Donc j'ai continué à bosser. Les autres personnes du bureau ont piqué du nez dans leur ordinateur, comme si c'était rien passé. C'était extrêmement curieux.
Les jours qui suivent, Daniel se sent épuisé moralement et physiquement.
Je me couche avec un journal dans mon lit. Mon mari travaille dans la pièce à côté. Je commence à lire mon journal et tout d'un coup, je m'aperçois que je n'arrive pas à lire parce qu'il y a des taches noires qui se posent sur les lignes. Et donc, je me frotte les yeux, j'enlève mes lunettes, j'essuie mes lunettes, je change, je réoriente la lampe, je recommence. Il y a toujours ces fichues taches noires qui arrivent sur les lignes. Et je me dis, tout d'un coup, je me dis, je suis en train de faire un AVC. Donc, je vais appeler mon mari, lui demander d'appeler les secours, et je n'arrive pas à parler. J'entends des trucs qui sortent qui n'ont absolument aucun rapport avec ce que je veux dire. Enfin, c'était la panique intégrale. Finalement, mon mari comprend que quelque chose de bizarre arrive, vient me voir. Je retrouve l'usage de la parole. Et entre-temps, on avait quand même appelé les secours. Donc, les secours sont arrivés. On m'a fait toutes sortes d'examens, tendre les mains, toucher le bout de mon nez. Mais bon, visiblement, il ne s'agissait pas d'un AVC. En fait, je pense que c'était ce qu'on appelle un incident ischémique transitoire. Je pense que mon cerveau n'a pas été irrigué pendant un moment à cause de ce fichu Takotsubo. Et donc, les secours me disent « Madame, ce serait quand même plus raisonnable d'aller aux urgences ». Donc, ils m'ont emmenée en ambulance. Quand je suis arrivée à l'hôpital, on m'a installée dans un fauteuil roulant et on m'a fait un électrocardiogramme. Et puis, on m'a installée dans un box assez glauque. Et il y a une jeune cardiologue qui est arrivée qui m'a dit « Ben voilà, vous faites un infarctus ». Et j'ai dit « Ben, je vais mourir ». Et elle me dit « Non, 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 vous êtes au bon endroit ». Et moi, je me suis dit, je vais mourir ici, dans cet endroit horrible, glauque. Mais en même temps, j'étais presque détachée de ce qui était en train de se passer. Et puis, elle est revenue. Et puis, elle m'a fait une échographie. Et elle m'a dit, ah ben non, c'est pas un infarctus, j'ai une idée, ça doit être un Takotsubo. Et alors là, moi, je savais même pas de quoi il s'agissait, j'avais jamais entendu ce nom. Et elle m'explique que c'est une déformation du cœur et que c'est beaucoup moins grave qu'un infarctus parce qu'il n'y a pas de caillot. Et elle me dit, on va vérifier. Et elle m'envoie faire une coronarographie, c'est-à-dire je me retrouve au sous-sol de l'hôpital où le médecin me dit qu'on va me faire ça sans anesthésie. Alors moi, j'étais dans une autre dimension. En fait, honnêtement, bref, c'était effectivement un fameux Takotsubo.
Pour la psychologue Christine Lefin, l'événement déclencheur du Takotsubo est très souvent lié à des souffrances psychiques antérieures que l'on a gardées trop longtemps en soi.
Dans la prise en charge des patients, il y a une expression somatique de la souffrance. Donc, elle est manifeste. Et cette souffrance-là, en fait, elle était latente, c'est-à-dire pas dissible. On ne pouvait pas l'exprimer. Et en fait, le résultat tangible de cette souffrance, donc du cœur, qui est révélé par l'échographie cardiaque, ça permet de faire le lien psychique, après coup, entre le choc traumatique et les répercussions somatiques. Voilà. Et donc, ce syndrome de Takotsubo, je me demande si, et ça reste une hypothèse, s'il est l'expression somatique de l'inexprimable.
L'altercation avec sa collègue a été le déclencheur du Takotsubo de Daniel. Cet incident apparemment banal a en fait fait rejaillir la souffrance qu'elle subissait au travail depuis de nombreuses années.
Je me suis rendu compte que il y a un moment où il faut écouter quand même son corps. C'est-à-dire que le Takotsubo que j'ai eu, je pense, c'est mon corps, mon cœur qui me disait « Arrête, ça suffit, tu peux plus ». Je suis quelqu'un de très sensible. J'aurais pu avoir une dépression, ça ne m'aurait pas étonnée. Mais là, ce Takotsubo, c'était pour moi ahurissant parce que je n'imaginais pas que mon cœur puisse se cabrer à ce point-là.
que je trouve, entre guillemets, séduisant dans cette image donnée à l'échographie de ce cœur qui est sidéré pour un instant et qui redevient après à l'état normal. C'est quand même assez étonnant. Il y a un véritable événement cardiaque, mais qui est sans conséquence réelle, en fait. Et pourtant, la personne arrive quand même, encore une fois, aux urgences et reste en unité de soins intensifs. Donc, en fait, cette métaphore visuelle du piège à poulpe lié au Takotsubo, c'est donc une symbolique du piège. Et en fait, on peut se demander si, c'est ma question, est-ce que les affects sont piégés, sidérés? Est-ce que la douleur de cette souffrance psychique, elle serait finalement, comme dans ce cœur qu'on voit, encryptée, c'est-à-dire comme dans une crypte, comme le poulpe qui est coincé finalement dans son vase, et voilà, et provoque parce qu'il ne peut plus sortir, l'événement cardiaque. Est-ce que c'est tous ces affects condensés qui ne sont jamais sortis et qui ne sont pas exprimables, voire pas encore élaborés, qui font éclater finalement, si on parle vulgairement, le cœur, le briser, au propre comme au figuré?
Quand nous avons le cœur brisé, c'est souvent le temps qui nous permet d'aller mieux. Le temps répare les maux. Lors d'un Takotsubo, ce cœur sidéré finit par reprendre sa forme initiale, comme si rien ne s'était passé. Mais dans certains cas, cela peut nous être fatal.
Il est possible de mourir du Takotsubo. Alors, initialement, quand on fait une mort subite, je vous avais dit que c'est exceptionnel. Donc, oui, mais c'est vraiment de manière rarissime. Et une fois qu'on arrive à l'hôpital avec ce Takotsubo, il peut y avoir des complications qui surviennent. Des complications d'insuffisance cardiaque, de troubles du rythme notamment. Après, des complications un petit peu plus spécifiques au cardiologue, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, ça nécessite un suivi en soins intensifs de cardiologie. Et on estime la mortalité hospitalière de 2 à 3%. Après, se pose toujours la question, est-ce que ça peut récidiver? La réponse est plutôt oui, ça peut. C'est rare, c'est 1 à 2% par an. Voilà, donc ça peut survenir. On a des cas de patientes qui ont récidivé une fois, voire même deux fois, mais ce n'est pas la règle. Voilà, ça peut survenir parce que souvent, il y a un contexte de stress chronique, de conflit, de telle sorte que ces personnes-là rebasculent et refont des Takotsubo tant qu'ils n'ont pas réglé ce problème de stress.
C'est pour cette raison qu'il est impératif pour Christine Lefin de pouvoir procurer un accompagnement des patients sur le volet psychologique. Si ce cœur abîmé est l'expression d'une souffrance psychique, il faut pouvoir en prendre conscience. Cette prise en compte du traumatisme et de la souffrance qui en est à l'origine pourrait permettre de prévenir de futurs Takotsubo.
Dans le Takotsubo, il y a de l'inexprimé qui provoque une souffrance psychique. Il s'agit de ne pas répéter cet événement. Or, on voit, et là, en ce moment, j'ai une patiente, elle a fait 3 Takotsubo. Elle se demande comment elle a pu rester aussi aveugle et muette par rapport à ce qu'elle était et par rapport à ce qu'elle ressentait.
Non, attends, il y a quelqu'un encore. Ils sont usants. Ça n'arrête pas.
En discutant avec Sabrina, je me rends compte que le Takotsubo a été un peu mis de côté. Comme si finalement, cet accident cardiaque était anodin.
Ah, c'est mon je reste 48 heures dans ce service parce que je les presse un petit peu en me disant, voilà, c'est un coup de stress, un coup de spleen, mon cœur, il a été sidéré, maintenant c'est bon, je peux sortir, quoi. Il faut que je sorte, il faut que j'aille voir mes parents, il faut que j'aille voir mes enfants, mon mari, il faut que j'aille rassurer tout le monde. Mais il y a justement plein d'examens à faire, donc scanner, IRM et une coro pour voir l'état des artères.
Comme Daniel, Sabrina se retrouve à faire une coronarographie et demande à l'équipe médicale de faire vite. Elle n'a qu'une idée en tête, sortir de l'hôpital.
Ils étaient en retard pour la coro. Donc je les presse un petit peu, mais ils me disent « En fait, c'est votre sœur qui est sur la table de coro. » Et donc d'un seul coup, je leur dis « Mais prenez votre temps. Vous avez tout le temps nécessaire, c'est pas un problème. » Et quand j'entre à mon tour en coro, et je vois la tête de l'infirmière qui me dit « Mais qu'est-ce que vous ressemblez, c'est incroyable. »
Quelques jours après sa sortie, Sabrina apprend que Sylvie, sa sœur, est en mort cérébrale.
Le Takotsubo, j'avais aucune légitimité de me plaindre parce qu'on était à une période où deux sœurs se sont retrouvées au même endroit, où une en est ressortie debout et une en est ressortie entre quatre planches. Tu vois, c'est peut-être cru, mais c'est vraiment ce que je ressentais à ce moment M. Donc non, j'avais pas la légitimité de dire je suis fatiguée, je suis très inquiète, je m'angoisse, je suis stressée. Non, tu te tais, tu reprends ton boulot après ton deuil, entre guillemets, parce que c'est un grand mot. Tu reprends le boulot et tu fais face. Je suis revue par un médecin l'année d'après. Donc je fais un holter cardiaque et une échographie cardiaque. Donc tu n'as aucune séquelle visible d'un Takotsubo. J'en ai pas plus d'inquiétude que ça parce que je continue à fumer, à faire du sport. On parle pas de rééducation ou de séquelles. Donc on te propose rien en fait. Hein. Il n'y a pas de séquelles cardiaques. Il y a des séquelles psy, c'est-à-dire une angoisse permanente de mourir, une angoisse permanente dès que tu fais un petit effort et que tu sens ton cardiaque, ton palpitant monter, mais sans explication derrière. Donc à ce moment-là, j'ai été vue par une psy, mais plus pour travailler sur le deuil de ma sœur en fait.
Les personnes victimes d'un accident cardiaque ont généralement peur d'une récidive. Avec le syndrome du Takotsubo, en plus d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête, Christine Lefin observe que les patients ont tendance à ressentir de la culpabilité. Ils peuvent se sentir responsables de cet accident cardiaque, mais il est aussi difficile pour eux de considérer le Takotsubo comme une souffrance légitime. En effet, ce cœur qui s'est déformé sous le coup de l'émotion reprend sa forme initiale. Le corps se remet finalement de ses émotions sans laisser de traces.
L'infarctus, quand il arrive et qu'il n'y a pas cette dimension psychologique, on retrouve quand même derrière différents stress. Là, ce qui est plus compliqué et qui va redésorganiser quand même le patient dans le Takotsubo, c'est que c'est comme une, pour eux, ils entendent aussi ce cœur qui d'un seul coup a réagi et qui n'a pas complètement craqué. Et donc ça remet en question la réalité de cette souffrance cardiaque. Or, dans l'événement cardiaque pur, il y a toute la dimension somatique sur laquelle ils peuvent s'appuyer quand même, en se disant qu'ils ne sont pas forcément responsables. Là, il y a une question de culpabilité qui devient finalement supplémentaire derrière le Takotsubo. Donc, et la culpabilité, on s'aperçoit qu'elle est souvent déjà là avant, en fait, depuis bien longtemps. Alors, il y a souvent dans les événements cardiaques, qu'est-ce que je n'ai pas fait ou qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trop fumé, j'ai trop bu, etc. Mais au moins, il y a quelque chose qui est identifié. Là, dans le Takotsubo, ça reste nébuleux pour eux. En plus, comme je vous disais, souvent, ce sont des gens qui ont du mal à élaborer ce qu'ils ressentent ou ils ne veulent pas être en phase avec ce qu'ils ressentent. Donc, pour eux, c'est en plus le début de quelque chose qui leur fait peur puisque, justement, précisément, depuis le début, ils s'en défendent.
En fait, le Takotsubo permettrait à la souffrance psychique de s'exprimer comme une sorte d'électrochoc. Notre cœur fait office de caisse de résonance de nos propres émotions et permet de réaliser que nous avons dépassé nos propres limites.
C'est déconcertant quand ce genre de truc vous arrive quand même, parce que vous dites d'abord pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait évidemment ? Voilà, société qui te culpabilise et qui te responsabilise pour tout ce qui t'arrive.
Après son Takotsubo, Daniel est retourné travailler pendant 2 ans avant de quitter l'entreprise définitivement.
C'est un incident extravagant, violent, bouleversant, qui doit quand même faire changer de braquet. On doit se poser des questions quand même et se dire « mais si mon corps, si mon cœur a des réactions aussi violentes, quand même, faut chercher le sens, quoi. » Et en fait, je ne peux pas dire aujourd'hui que j'ai compris, hein. Oui, voilà, je constate que ça m'est arrivé, que ça a sans doute, ça m'a sans doute fait reconsidérer pas mal de choses dans ma vie. C'est-à-dire que, alors peut-être qu'à l'âge aussi, j'en sais rien, mais en tout cas aujourd'hui, je veux plus de situation conflictuelle. Et puis je m'écoute. Quand viscéralement quelque chose me dit non, on n'y va pas, eh ben j'y vais pas. Ce que je ne faisais pas avant.
Pour Sabrina, c'est finalement un deuxième accident cardiovasculaire qui lui permet de prendre la peine d'écouter son cœur. En 2021, 10 ans après son Takotsubo, elle se retrouve hospitalisée pour un infarctus.
Mon infarctus est dû à l'accumulation de mauvais stress et d'absorber les émotions des autres et de ne pas savoir prendre du recul et analyser l'émotion en fait. Il m'a fallu 10 ans et un deuxième accident cardiaque pour réaliser que l'esprit et le corps sont liés. Je pensais être quelqu'un qui s'écoutait, qui se faisait confiance, qui savait à quel moment elle était débordée, à quel moment elle était plus zen. Ça, c'est tout fou. J'étais complètement à côté de la plaque. Il faut apprendre vraiment à s'écouter et il faut se donner du temps. Accorde-toi du temps et c'est te donner de l'importance dans ce monde, en fait.
Je dois dire que cette plongée dans le Takotsubo n'a pas été une mince affaire et qu'il est aujourd'hui difficile d'avancer avec certitude. Sur 3 psychologues présents dans des services de cardiologie de grands hôpitaux parisiens, seule Christine Lefin a bien voulu répondre à mes questions. Les autres pointent un manque d'expérience pour parler de cette maladie peu connue. Si le Takotsubo est peu documenté, est-ce que c'est parce qu'on en meurt que très rarement ? Est-ce que c'est parce qu'il s'agit d'une maladie trop récente, qui touche trop peu de personnes ? Est-ce qu'on en parle peu parce que cela met en lien deux disciplines qui ont du mal à se concilier, la psychologie et la cardiologie ? J'aime aussi l'idée de laisser une part de flou à ce cœur qui pourrait cesser de battre pour ceux qui nous sont chers. Finalement, avoir le cœur brisé, ou plus exactement déformé, est l'expression d'une souffrance qui n'a pas pu être élaborée. Ce cri du cœur serait-il une manière d'exprimer l'inexprimable ? Une chose est sûre, si cet organe central n'est pas le siège de nos émotions, il reste néanmoins sensible à chaque nouvel émoi ou à chacune de nos souffrances. À travers le rythme plus ou moins effréné de ses pulsations, notre cœur en dit long sur nos émotions. Un peu comme notre boussole intérieure, vitale et précieuse.
Vous venez d'écouter Émotion. Cet épisode a été tourné et écrit par la journaliste Capucine Jaffé. Elle vous faisait entendre les témoignages de Daniel Laufer et Sabrina et les explications de Nicolas Massincal, Christine Lefin et Nicolas Verneau. Vous pourrez retrouver toutes les références liées à leurs activités sur notre site. Camille Bichler était en charge de la supervision éditoriale de cet épisode, accompagnée de Capucine Rouault. Marine Kéméré en a fait la réalisation et Benoît Daniel s'est occupé de la prise de son. Jean-Baptiste Aubonnet était au mix et c'est Nicolas Degélis qui a composé le générique d'Émotion. Si cet épisode vous a plu et que vous souhaitez en savoir plus sur les liens entre santé et émotion, je vous recommande l'écoute de « Pourquoi la douleur doit-elle être visible pour exister ?» un épisode d'Émotion signé Léna Coutreau. Émotion est un podcast de Louis Média, également rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Mélissa Bounois, directrice des productions, et Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale. Émotion, c'est un lundi sur deux, là où vous aimez écouter vos podcasts. Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou Spotify. Vous pouvez nous laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler autour de vous. Et si vous voulez partager vos histoires, n'hésitez pas à nous écrire à hello@louismedia.com. Nous vous lirons et nous vous répondrons. Et puis, il y a aussi tous nos autres podcasts, Travail en cours, Passage, Injustice, Fracas, Une autre histoire, Entre ou Le Book Club. Bonne écoute et à bientôt.
This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all, jewelry that makes you look like the gem, or sneakers and streetwear so fresh every step feels fly. eBay gets it. So look for the blue check mark next to that thing you love and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone. But as much as the GX challenges you, it also spoils you. Its intuitive technology and luxurious features mean that wherever you go, you'll never go without. Live up to it. The all-new Lexus GX.